Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir invités à dire quelques mots ici. Donc je m'appelle Louis, j'ai fondé une revue qui s'appelle Zola il y a environ 3 ans, dont le principe consiste à envoyer des écrivains sur le terrain pour parler de sujets de société. Donc on essaye de raconter des histoires vraies qui concernent donc des grandes questions d'actualité, mais de façon très narrative et littéraire. Et au moment d'imaginer notre modèle économique, il y a quelques temps, on a eu l'intuition, après le premier confinement, que les entreprises avaient besoin de nouvelles façons de se raconter et de créer du lien avec leurs partenaires et leurs clients. Et on a imaginé une offre corporate qui repose sur 3 activités. Donc l'activité littéraire, puisqu'il s'agit d'écriture très narrative, on mobilise des écrivains comme Jean-Pierre. Le champ du journalisme, parce qu'on parle du réel, sont toujours des histoires vraies. Et puis le champ de la communication, puisque l'idée in fine, à chaque fois qu'on travaille avec une marque, c'est de lui être utile et donc de répondre à des objectifs de communication traditionnels. Et donc quand on a créé cette offre, on a fait un petit peu le tour des grandes agences pour essayer de valider cette intuition. On est allé voir Havas, Publicis, BETC. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin du côté des entreprises. On s'est rendu compte aussi que les grandes agences, en fait, n'ont pas ou plus de pôle éditorial en interne qui permettrait de réaliser ce type de projet. Donc en général, elles externalisent. C'est comme ça que BETC est venue vers nous. BETC est l'agence qui a été mandatée pour transformer toute la signature de marque de la SNCF. Et dans ce vaste chantier, il y avait un contenu de communication qu'on appelle une charte éditoriale. C'est un document d'une quarantaine de pages qui a pour objectif d'aligner toutes les personnes qui travaillent au département communication du groupe SNCF sur ce changement de stratégie. Et ça va donc de la vision de la marque jusqu'à des choses ultra concrètes comme qu'est-ce que les community managers ont le droit d'employer comme terme lorsqu'ils font un tweet, par exemple. Et BETC est venu vers nous parce que l'idée, c'était d'essayer de rendre cette charte un peu sexy. En principe, ce sont des documents de communication qui ne sont pas toujours hyper attrayants. Et là, l'idée, c'était d'essayer de marquer un petit peu le coup, étant donné qu'il s'agit d'un grand changement dans une grande structure qui, en principe, comme tu le disais, est un petit peu rigide. Et donc, on a eu cette idée avec Jean-Pierre de fonder cette charte éditoriale sur une histoire dont la SNCF est le héros. Et Jean-Pierre, je te laisse peut-être raconter comment on a construit cette histoire.
Oui, alors je vais juste me présenter rapidement. Moi, je suis romancier et éditeur. J'écris plusieurs romans et recueils de nouvelles et des essais. Et puis j'ai fondé ma maison d'édition qui s'appelait Rue Fromentin. Et maintenant, je suis éditeur en littérature pour plusieurs maisons du groupe Editis. Le Cherche Midi, Séguier, Robert Laffont et pour une maison du groupe Gallimard, la Table Ronde. Donc, à côté de ça, j'interviens aussi comme scénariste, et donc je relis énormément de scénarios ou de bibles de séries, de choses comme ça, avant présentation, voilà, pour des producteurs de cinéma. Donc, tout ce petit préambule, juste pour dire que la fiction, c'est un peu mon pain quotidien depuis des années, et c'est évidemment ce qui nous a rapprochés sur ce cas de la SNCF. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, grosso modo, il n'y a pas plus chiant qu'une charte, en fait. Il n'y a pas plus aride, il n'y a pas plus didactique, mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez, en disant, attention, il faut écrire comme ça, il faut que la marque soit connivente. Il n'y a pas plus abstrait avec des mots comme celui que je viens de dire, connivant, qu'on peut mettre à toutes les sauces et dont on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin voilà, il y a plein de fils. De mauvais fils à tirer d'une charte finalement. Et alors après SNCF, alors là on parle d'une, on est au-delà de la pieuvre, je sais pas, là on est un animal colossal avec des services de communication dans tous les coins, des communicants de communicants de communicants qui vous diront ah non je suis à la DGRCP, ah oui donc tu n'es plus à la FNCN, non, enfin bon, et tous ces gens allaient recevoir cette charte et donc devaient se l'approprier. Déjà j'ai oublié l'approprier, c'était quand même c'est quand même le but. Avant, il y a une étape, il devait déjà ne pas l'acheter, il devait déjà l'ouvrir et se dire qu'est-ce que c'est que ça, et ne pas se dire ah tiens, c'est l'énième document où on va m'expliquer comment je dois faire mon travail. Et donc, la première cible, et je pense que c'est important de parler de cible quand on parle de contenu, c'était cette équipe pléthorique de communicants qui ne font pas tous le même travail, qui n'ont pas tous le même niveau d'expertise. Certains ont travaillé en agence avant, d'autres ont fait une grande carrière et se définissent eux-mêmes comme cheminots. Il est rare chez BETC de rencontrer des gens qui se définissent comme cheminots, donc c'est deux mondes quand même assez... Et donc à la SNCF, il y a des gens qui vous disent « je suis communicant », d'autres qui vous disent « oui, mais moi je suis de la SNCF ». On voit bien qu'il y avait un public très très large et très varié. Donc, on s'était dit « il faut passer par la fiction ». Alors, pourquoi ? Parce que ça, on a eu la matinée pour en parler, c'est-à-dire que la fiction, c'était... bon, c'est l'universel. Je rajoute juste un petit truc par rapport à ce qu'on a entendu dans la matinée. C'est vrai que la fiction, c'est l'émotion. Ça, c'est une certitude, on l'a entendu plusieurs fois. Moi, je pense aussi que ça a une force pour deux choses. D'une, parce que c'est vieux comme le monde. Je ne sais pas si vous avez lu le best-seller de Yuval Harari, le philosophe israélien qui s'appelle Sapiens. Son livre s'appelle Sapiens. Et à un moment, il explique pourquoi on est passé du chasseur-cueilleur solitaire à des petites communautés. Alors effectivement, il fallait cultiver des terres et faire un peu de riz et faire un peu de blé. Mais pourquoi on est resté comme ça? Et en fait, il a donné une des meilleures explications que je connaisse. Il dit parce que en fait, c'est grâce au ragot, quoi. On se raconte des histoires, on raconte des histoires sur le voisin. Et puis en fait, plus la communauté est grande, plus il y a d'histoires à raconter et on reste ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort là-dessus. C'est vrai qu'on a envie d'écouter des histoires. Pas forcément que des ragots, mais on a envie d'écouter, d'entendre des histoires. Et je crois qu'il y a aussi un autre point qui est qu'il y a l'émotion, c'est susciter l'émotion. Mais enfin, pour une charte, on n'allait pas faire l'impossible. On n'allait pas transformer le plomb en or quand même. Là, je veux dire, une charte, c'est une charte. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec la fiction qui est que c'est le bon dosage entre l'effet de réel, c'est-à-dire vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça » ou « Ah oui, c'est vrai, ça se passe comme ça ». Le fameux effet « j'y crois » en fait, qui est vieux comme le monde. Tolstoï disait, quand j'écris une page, si on me dit qu'elle n'a pas pu avoir lieu, je la déchire. Il faut y croire. Voilà. Alors je sais qu'il y a des fictions qui peuvent être des fictions surréalistes, qui peuvent emmener vers le rêve, mais il n'empêche que c'est le même principe. Il faut croire à ce rêve, il faut croire à ce qu'on vous propose. Et pour moi, il y a un dosage qui est cet effet « j'y crois, ça se passe », et un effet d'étonnement quand même. On ne peut pas simplement décrire une scène et on se dirait simplement « ah oui, j'y crois, oui, oui, c'est banal comme la banalité ». Non, il faut aussi amener un effet d'étonnement en plus. Et c'est un peu ce qu'on cherchait avec la charte. Comment faire ce récit? Comment se dire comment on fait le récit de, en gros, voilà comment vous allez parler de votre marque. Alors, bon, ça a été long, on a pris plusieurs voies. C'était compliqué. On s'est posé pas mal de questions sur comment le raconter. Moi, je pense qu'il y a un mot, parce que finalement, bon, je vais peut-être passer pour un dinosaure, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire apparaître des voitures. Mais bon, je pense que quand même, les gens viennent nous voir pour une mission, c'est trouver les bons mots, quoi. On pourra toujours faire apparaître des voitures, mais quand ce jeune homme aura besoin de dire « Ah tiens, comment j'explique que c'est intéressant de faire apparaître une voiture ?» il faudra qu'il trouve les mots, quoi. Et s'il parle à ses amis, ce sera simple de dire métaverse. Mais s'il parle à une autre cible, est-ce que ce sera le bon mot? Bon, voilà. Je pense que ça, c'est. Alors, on a cherché les mots, on s'est dit, et moi, je trouve qu'il y a un mot qui a tué notre métier pendant très longtemps, c'est le mot storytelling. Parce qu'au fond, on ne savait pas ce que c'était, quoi. Je veux dire, storytelling, alors raconter des histoires. Et je me souviens très bien, je travaillais en agence à l'époque chez Euro SCG CNO, qui est devenu Havas. Et en permanence, on entendait ça, storytelling, il faut trouver un storytelling. Moi, j'ai toujours été marqué par un point qui est à quel point les journalistes de la presse, magazine et quotidienne sont à la ramasse. Et je trouve qu'ils sont toujours en retard de trois guerres. Et moi, ça m'avait marqué à l'élection de Sarkozy, ils avaient tous commencé à dire « oui, c'est entièrement fondé sur le storytelling », truc qu'on disait depuis 5 ou 6 ans, mais ils n'arrivaient pas à le définir. Ça me faisait rire, je lisais les articles, je disais « mais c'est quoi le storytelling de Sarkozy ? Qu'est-ce que tu appellerais storytelling ?» Je pense que cette mode-là a complètement tué un peu notre métier, en tout cas figé notre métier. Et c'est quand on est revenu à des choses aussi simples que ce qu'on a entendu ce matin, créer, raconter, fiction, là, on comprend. Et là, on sait ce qu'on peut faire. Parce que storytelling, storytelling, ça sonne bien, quoi. C'est bien pour un nom de groupe de rock, quoi, vos storytellings, mais vraiment, storytelling, c'est pas un métier, quoi. Et donc là, avec fiction, narration, on touche quelque chose. On en parlait souvent avec Louis, on s'est dit comment on le fait. Et là, il se heurte, et on se heurte, nous, à une question qui est, C'est une charte, comme je venais de vous le dire. Donc, c'est un document particulier. C'est un document qui va expliquer des choses. C'est un document qui va être didactique, qui va même être un guide pratique en même temps. Il va même donner des exemples. Ne dites pas comme ça, mais dites comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a tourné autour de l'idée, si on fait une histoire, on fait un héros. Mais c'est qui le héros? Alors là, on a frôlé l'incident, parce que la tentation, c'est de faire de la marque un héros. C'est ce que nous avons fait. Mais la tentation, c'est de créer une sorte de lui donner une apparence, de créer une sorte de mascotte. Et là, la ringardise n'est jamais très loin. Et personne dans la vie n'a envie d'être Footix ou je ne sais quelle mascotte. Donc, ou le bonhomme de CTLM, quoique lui est plutôt sympathique. Mais il ne fallait pas passer par là. Et c'est, donc, on se heurtait à ce moment-là. C'est tout. Alors, c'est agréable de le résumer en 10 minutes, là, parce qu'en fait, c'est des discussions assez longues. Et donc, on se demandait comment on fait pour que la marque soit, SNCF soit le héros de cette histoire qui va être une charte. Et on a pensé à un livre publié en 56. Alors, j'espère que je ne dis pas de conneries, mais en tout cas, années 50, qui s'appelle « Le héros aux mille et un visages » de Joseph Campbell. Alors, c'est devenu une bible pour tous les scénaristes. Ensuite, c'est devenu une sorte de fondation pour tous les ateliers de creative writing. Qui est Joseph Campbell et quel est ce livre? Joseph Campbell, il se définissait lui-même comme mythologue. Donc, il a étudié tous les grands mythes de toutes les civilisations. Et à un moment, il a dit, c'est curieux, dès qu'il y a un mythe, il y a un héros. Et dès qu'il y a un héros, il a le même parcours. Vous pouvez vous trouver en Asie, chez les Indiens d'Amérique, chez les Grecs. Le héros, à un moment, il a un parcours. Et il a tracé le parcours de ce héros en 12 étapes. Donc, évidemment, ça vous fait une base. Voilà, moi, j'ai édité énormément de littérature américaine. Et il y a un éditeur américain qui me disait toujours, quand tu as un auteur mauvais et qui patauge et qui va te prendre du temps, photocopie-lui 3 chapitres de Campbell. Et puis, normalement, ça le débloque. Parce que c'est un peu ce moment où vous vous dites, tiens, mon héros est là, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, il y a les 12 étapes, vous pouvez choisir, vous pouvez combiner. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, la charte va faire exactement cet exercice. Elle va dire, il y a un héros, c'est la marque SNCF, on n'est pas obligé de lui faire une tête, on n'est pas obligé de le personnifier, c'est notre héros. Ce héros, cette héroïne, elle a des particularités. Elle est quand même dans la vie des Français depuis pas mal de temps et d'une certaine façon. Elle est à la fois aimée et détestée par les mêmes Français. Elle est à la fois très quotidienne et même très exceptionnelle. On peut faire de longs voyages, on peut faire de courts voyages quotidiens. Elle est là. Donc on a fait son portrait et on s'est dit, qu'est-ce qu'elle va rencontrer, cette héroïne? Qu'est-ce qu'elle va rencontrer comme étape? Alors là, on a dit par exemple, très Campbell, on a dit un héros agit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un héros agit? Parce qu'un héros qui n'agit pas, on en voit deux dans l'histoire de la littérature, c'est Oblomov et Bartleby. Bartleby qui dit en permanence, je ne préférerais pas, c'est-à-dire ne me demandez rien, je ne veux rien faire. Mais quelque part, si vous voulez, c'est des tours de force de la littérature et ce n'est pas des grands modèles à imiter, personne n'a jamais essayé de refaire Bartleby. Mais en revanche, les héros agissent. Nous, on veut voir nos héros faire des choses, que ça aille du Seigneur des Anneaux à... Même chez Marguerite Duras, elles font des trucs. Donc, on veut le voir agir. Qu'est-ce que ça veut dire quand une marque agit? Et là, on a tiré tous les fils. Elle s'exprime au présent, elle s'exprime avec des verbes d'action, elle met en... Voilà, vous voyez, on tire tous les fils comme ça au plus loin. Après, un héros n'agit jamais seul. On aime les héros solitaires, mais quand on regarde toutes les histoires, même le plus célèbre des héros solitaires, Lucky Luke sans les Dalton, c'est quand même pas les mêmes aventures. Sans Jolly Jumper, c'est quand même pas le même cow-boy. Donc, on se dit, qu'est-ce que c'est que la SNCF jamais seule? C'est les territoires, elle met en valeur les territoires. Elle utilise le « nous », alors que beaucoup de marques proscrivent le « nous » dans leur expression. Elle fait intervenir les experts extérieurs le plus souvent possible. On tire tous ces fils. Et ainsi de suite. Dès qu'on donne une caractéristique du héros, on tire tous les fils pour l'expression de marque et tout ce que ça peut donner. Bon. Ça marche, honnêtement. Ça marche. Ça donne un document à la fin qui a été bien reçu et qui est très exploitable. Et on a rajouté une couche de fiction par-dessus. Parce que pourquoi il y a cette charte? C'est parce que cette charte, elle ne voit pas le jour parce qu'un jour, un patron dit « je veux tout changer », quoique c'est un cas de figure assez fréquent, mais disons que ce n'était pas le cas là. Ils avaient toute une nouvelle stratégie. Et donc, un jour, on était un peu désespérés avec Louis parce qu'ils nous ont appelés et nous ont dit « ah oui, mais au fait, il faut absolument rajouter une couche quelque part et expliquer la nouvelle stratégie ». Alors que normalement, on pensait que c'était dans un autre document. Alors là, on s'est encore dit « comment on le fait par la fiction ?» Comment on crée quelque chose qui ne soit pas les 5 points à retenir de la nouvelle stratégie. Et on a entièrement dialogué des dialogues entre collaborateurs de la SNCF qui parlent entre eux de la nouvelle stratégie et qui avouent n'y rien comprendre ou qui essayent de l'expliquer à un copain. Et c'est entièrement dialogué. Et tout ça se passe évidemment dans un train le matin pour aller au boulot. Donc, vous avez cette situation et ce traitement-là. Et donc, la fiction, si vous voulez, les règles qu'on a mises en place avec qui est notre héros, c'est la marque, et qu'est-ce qu'il fait, ensuite trouvent leur expression dans ce traitement fictionnalisé. Parce que, évidemment, les collaborateurs dont je vous parle, ils n'existent pas. On n'allait pas prendre machin dans tel service et machin dans tel service. On a créé des collaborateurs lambda. On leur a donné un métier. On a dit depuis combien de temps ils étaient là. Et on a dialogué. On les a fait dialoguer. Et tout ça avec un rythme de fiction. Il faut qu'il y en ait un moment qui dise « Ah, ça me saoule. Oh, bon non, mais t'as mal compris. Ah oui, mais non, mais pourquoi tu me dis ça ?» Il faut qu'on comprenne. Et c'est la seule façon, je trouve, la fiction, de faire sauter quelques verrous dans les marques. Parce que vous diriez à une marque, on va dire à un moment, la stratégie, elle n'est pas claire. Bon, vous pouvez facturer et puis vous attendrez le paiement. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment, les gens veulent une mission accomplie, c'est-à-dire qu'on dise voilà la stratégie. Alors que là, avec la fiction, on peut faire apparaître les doutes, on peut faire apparaître les hésitations, puisque ce sont des personnages fictifs et qui dialoguent entre eux et qu'à la fin, il y a une résolution. Donc voilà, on a mis ce système-là en deux temps. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est ce système autour du parcours du héros et la marque est un héros, c'est qu'il est en fait, il est déclinable, puisqu'aucune marque n'a la même histoire. Donc, aucune marque n'est le même héros. Donc, on pourrait refaire cet exercice-là avec énormément de marques pour un document aussi aride et aussi difficile que la charte et donc le rendre beaucoup plus attrayant, moins aride et moins difficile. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous a permis avec Louis de penser à pas mal de choses autour de la fiction parce qu'on ne veut pas... on a fait cet exercice-là, mais on est convaincu que la technique fictionnelle... sert les marques et surtout leur ouvre des champs. Donc, alors moi, à titre personnel, j'ai fait un recueil de nouvelles entier pour le groupe LVMH, pour les journées particulières, qui sont un peu leurs journées portes ouvertes. Voilà. Et donc, on a fait une nouvelle de fiction par maison. Mais tout ça partait chaque fois d'un fait réel, un fait historique dans une maison, et on grossissait ça en histoire. Alors, pour vous donner un exemple, dans le groupe LVMH, il y a la marque de bijoux de luxe, Bulgari. Et un jour, en discutant avec le DIRCOM de Bulgari, il m'a expliqué qu'une de leurs plus grosses clientes depuis une éternité, enfin maintenant elle est morte, mais ça avait été Elizabeth Taylor, l'actrice Liz Taylor. Et il m'a expliqué qu'elle venait toujours les acheter Bulgari à Rome. Elle pouvait prendre l'avion Los Angeles-Rome. Elle voulait les acheter à Rome. Et elle demandait toujours à ce qu'on la fasse entrer dans une petite pièce pour qu'elle essaye les bijoux seule. J'ai monté toute une histoire à partir de ça, plus d'un jeune paparazzi qui attend parce qu'il sait qu'elle est là. Et il sait que Richard Burton, le mari de Liz Taylor, est là aussi. Il veut les prendre en photo alors que normalement ils sont divorcés. Il y a toute une histoire qui... Et tout tourne autour de Bulgari. Et cette histoire a tellement plu que la marque Bulgari l'a utilisée en publication de publicité dans le Corriere della Sera, le grand quotidien italien. Ils l'ont mis tel quel. Et le DIRCOM de Bulgari me disait à chaque fois, il y a tout l'esprit de notre marque. Tout est faux, presque, mais il y a tout l'esprit de notre marque. Tout est faux, donc tout est vrai. Quoi. Guy Debord avait raison. Le faux est un moment du vrai, et inversement. Et voilà, par exemple, un exemple. Et un dernier exemple qui illustre tout ce qu'on peut tirer, je pense, de la fiction littéraire ou cinématographique ou de série, en tout cas de la façon de raconter quoi, des histoires, c'est le rapport annuel que nous avons produit pour BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc on a produit 2 éditions de ce rapport annuel, 2 années, sous forme de roman. À chaque fois, vous avez un roman. Voilà, le premier roman. Et donc à chaque fois, j'ai fait l'effort de me dire, et si on prenait des registres différents. Donc le premier, c'est un polar, une enquête. Une fille mène l'enquête. Et effectivement, dans cette enquête, elle va croiser plein d'éléments qui sont les éléments de la marque. Elle va avoir besoin de choses qui sont proposées par la marque. Alors, il faut se creuser la tête. Elle ne va pas faire un emprunt. Bon, il faut aller chercher un petit peu ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on tire ce fil-là. Et ça donne 25 pages, 35 pages de roman. Des petites notes dans le roman qui vous renvoient au contenu corporate un peu plus loin. Mais c'est par la fiction et par l'histoire que vous entrez dans la marque et que vous accédez à l'information plus sérieuse après, si vous le souhaitez. Et le deuxième roman, c'était un hommage au roman choral, au roman qui brasse énormément de personnages. On avait appelé ça 21 rue de l'avenir. C'était un immeuble dans une rue, façon Georges Perec. Et à chaque étage, on racontait la vie des habitants et un mystère unissait ces gens habitant dans l'immeuble. Et donc là, c'était une fiction totale. Et même principe, ça renvoyait vers plein de choses différentes. Donc voilà, un exemple comme ça. Qui en tout cas illustre le fait que ça n'est pas forcément artificiel. On peut partir de cette idée, se dire que ces deux mondes vont se rencontrer et qu'effectivement ils se rencontrent vraiment. C'est-à-dire que l'un amène à la découverte de l'autre.
Sacré challenge de rendre sexy un bilan financier quand même.
Ouais, c'est vrai. On
peut le dire. Mais enfin, je te rejoins sur si tu parlais du storytelling tout à l'heure, c'est vrai que c'est une notion qui est assez abstraite en fait. On se rend compte que par des techniques, par des méthodes d'écriture et de narration, on obtient des avantages très concrets en fin de compte. C'est que ce sont des objets qui sont tout simplement agréables à lire en fait. On se plonge dedans et puis on va au bout, non pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on a envie de connaître la suite de l'histoire. Et donc effectivement, c'est l'avantage de la fiction. Je crois aussi qu'il y a un autre avantage concret, c'est que ça rend ces objets parfois plus faciles à comprendre. Quand on met en situation, qu'on crée des personnages, parfois ça simplifie des notions qui peuvent être très complexes, surtout quand on parle d'un groupe comme la SNCF par exemple. Et puis la troisième chose aussi, je crois que c'est ça marque le coup quoi. Quand on fait ce pas de côté, quand on mobilise la narration et l'écriture littéraire avec un écrivain comme Jean-Pierre, voilà, ça marque un peu les esprits.
C'est une façon aussi, je trouve, comme je le disais tout à l'heure, c'est une façon aussi de pouvoir se permettre des choses, parce qu'après tout, tout est possible quand on y pense. Alors, on se fixe les limites, la marque fixe les limites. Nous aussi, on se fixe nos limites dans ce qui est réalisable et ce qui donnera un bon rendu. Mais au fond, tout est possible. Dans un intranet, on pourrait dire tout est possible. Oui, enfin, c'est un vœu pieux. Là, tout est possible, sincèrement.
Oui, puis enfin, même sur la question des formats, par exemple. Là, on parle d'objets fictionnels, mais ça peut être du reportage de terrain aussi. On peut mobiliser ces techniques d'écriture sur du réel pur, sur de la non-fiction à 100%, ce dont parlait Guillaume tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Ça peut être de la BD aussi. Nous, on dirige une collection de romans graphiques chez Robert Laffont, donc on fait de la bande dessinée. C'est un médium qui peut être transposé à la communication.